Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast des ailes des Hauts-de-France. Ce rendez-vous, c'est un éclairage sur celles et ceux qui osent, qui s'engagent et qui veulent comprendre notre monde d'aujourd'hui et de demain. Avec ce podcast, nous prenons et nous donnons la parole à des femmes qui ont un impact positif sur les autres et pour les autres. Avec vous, avec moi, ensemble, nous allons découvrir des personnalités inspirantes, des femmes engagées sur des sujets qui font notre quotidien et qui contribuent à changer le monde. Je m'appelle Laurent Stock et je suis heureux de vous accueillir sur le podcast des Ailes des Hauts-de-France. Bonjour Catherine.
Bonjour Laurent.
Catherine, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast des Ailes des Hauts-de-France. Alors, tu es la présidente d'Energy Boost. Dans ce cadre un peu particulier qui est le mois d'octobre, c'est souvent le mois rose, c'est comme ça qu'on l'appelle. Toi, tu as décidé finalement de faire ta part à travers une association qui s'appelle Energy Boost, association qui aide les soignants et les patients en cours de traitement de cancer ou de maladie chronique à retrouver leur énergie vitale. Quand on a préparé cette émission, tu m'as évoqué deux enjeux. Le premier enjeu, c'est aider les soignants à prendre soin d'eux. Et puis le deuxième enjeu, favoriser le retour à l'emploi des patients. Et c'est de ces sujets, dont j'aimerais bien qu'on puisse parler ensemble. Mais avant tout, ce que je te propose, Catherine, c'est peut-être que tu nous présentes qui tu es et comment t'es venue finalement cette idée.
Alors, donc, j'ai créé l'association Energy Boost il y a 2 ans, parce que j'ai eu un petit cancer du sein il y a 5 ans. Et quand j'étais en radiothérapie avec les personnes qui étaient avec moi, je me suis rendu compte que pour celles qui avaient été en arrêt maladie, le fait de reprendre l'emploi ou même celles qui étaient en emploi, c'était un sujet qui était très sensible et un petit peu complexe. Et comme je suis coach professionnelle, j'ai toujours fait du coaching solidaire. Je me suis dit, autant accompagner des personnes qui ont vécu ce que j'ai pu vivre ou qui ont vécu des situations encore plus complexes, parce que typiquement, les chimiothérapies, ce sont des traitements qui sont lourds, donc qui entraînent beaucoup d'effets secondaires et des absences au niveau de l'emploi. Et j'ai eu envie d'accompagner en solidaire et de proposer des coachings pour le retour à l'emploi. Alors, le retour à l'emploi, c'est vraiment un sujet clé, et un sujet clé aussi au niveau national, parce qu'en fait, on a à peu près chaque année presque 400 000 nouvelles personnes qui apprennent qu'elles ont un cancer. Et parmi toutes les personnes qui apprennent qu'elles ont un cancer et qui étaient en emploi au moment du diagnostic, en fait, on en a quand même 1 sur 5 qui perd son emploi au bout de 5 ans. Donc, c'est le retour à l'emploi et l'accompagnement pour le retour à l'emploi, pour éviter de perdre son emploi, ça devient un sujet vraiment prioritaire. Et clairement, dans la feuille de route 2021-2025 de la stratégie décennale de lutte contre les cancers, il y a une fiche d'action spécifique, faire du maintien dans l'emploi un objectif du parcours.
Donc, s'il fallait le préciser, tu travailles chez EY, dans une belle entreprise, mais en interne, chez EY, tu es aussi coach, c'est ça?
Oui, j'ai un premier métier qui est Business Support Services Leader et je suis également coach en interne.
Ok. Alors, tu parlais finalement, malgré tout, d'une perte, on peut l'exprimer comme une perte de confiance, ce que tu dis là. Est-ce que tu peux nous projeter finalement sur ce que peuvent ressentir les femmes, mais pas que, parce que tu n'accompagnes pas que des femmes.
Oui.
Qu'est-ce qu'on ressent quand on est atteint par cette maladie? Qu'est-ce qui nous passe par la tête et qu'est-ce qu'on peut ressentir du regard des autres?
Alors, il y a différents ressentis. Le premier, c'est de se dire, est-ce que je parle de ma maladie ou pas, quand je retourne dans mon emploi? Est-ce que j'en parle? Comment j'en parle? Ensuite, il y a beaucoup de craintes sur le retour à l'emploi en se disant c'est un moment sensible. Si j'étais absent, est-ce que j'ai toujours ma place? Comment mes collègues vont m'accueillir? Comment je vais leur parler de ma maladie? Ou eux vont peut-être considérer que le fait que je sois revenue, ça y est, je suis en rémission, je suis guérie, alors qu'au fond de moi, il y a encore pas mal de chamboulements internes.
De doutes,
oui. Après, pour ceux qui ont été absents pendant une longue période, il y a vraiment cette peur de la reprise en se disant, hormis ce que je viens de citer sur l'accueil du manager, l'accueil des collègues, c'est les impacts cognitifs, la fatigue, comment je vais gérer ces éléments-là. Donc, on a une période qui est assez stressante, juste avant la reprise, où les personnes ont besoin de se rassurer, ont besoin d'être accompagnées. Et ça fait partie des accompagnements et des coachings individuels que nous avons. Donc, comme tu l'as dit, pas uniquement des femmes, pas uniquement des cancers du sein. Ce sont vraiment des cancers, on va dire, at large, ou des maladies chroniques pour lesquelles il y a des absences régulières.
Alors, Quand on parlait de cette thématique, on parlait donc du retour à l'emploi extrêmement compliqué.
Oui.
Et puis, tu m'évoquais finalement des phases, une phase assez courte, une phase assez longue, et puis on évoquait même le sens de la vie. Sur une phase assez courte, a priori, c'est pas un problème, on revient et puis on réintègre l'entreprise sans trop de difficultés. C'est ce que tu avais l'air d'évoquer.
Oui, effectivement, quand il y a eu une absence courte ou pas d'absence, c'est vraiment ce petit moment très sensible où on est sur la confiance de la reprise.
Okay.
Après, que l'absence ait été courte ou longue, le fait d'avoir été confronté à un cancer fait que l'on est confronté à la finitude. Et du coup, on émerge la question du sens. Donc le sens de la vie, mais à un moment vient aussi le sens du travail.
Mais oui.
Un petit peu comme pendant le Covid, où plusieurs se sont dit, mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je ne vais pas aller ouvrir un gîte dans la Perche ou autre ? C'est vraiment se dire, est-ce que mon travail me correspond toujours ? Est-ce qu'il a toujours un sens, un intérêt ? Parce que d'être confronté à la finitude donne vraiment cette sensibilité au sens vie et travail.
J'ai été confronté à la mort, je suis maintenant confronté à la vie, de nouveau, c'est ce que tu disais.
Oui.
Et quelque part, c'est de se dire, quel est le sens de ma vie ? Et finalement, sur le poste que j'occupe, qui m'a épanoui, qui m'a permis de grandir, d'élever mes enfants, etc., etc. Est-ce que la deuxième part de ma vie, elle est là, quoi ? C'est un peu ça que tu es en train d'exprimer.
Mmh. Ouais. Oui, c'est en fait de se dire, est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté d'un élément crucial de ma vie professionnelle. Donc quand on travaille sur ces sujets, donc ce sont des personnes souvent qui ont repris leur travail et il y a la petite voix lancinante qui leur dit mais qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu es vraiment à ta place professionnellement ? Donc on va avoir un accompagnement qui va être vraiment de dire ok, quelles sont vos compétences ? Quelle est votre expérience professionnelle ? Quelles sont vos envies ? Et ensuite, on va à la fois détricoter ou retricoter les projets professionnels autres que pourraient avoir les personnes que nous accompagnons.
Oui, parce que ce que tu dis là, c'est donc une forme de constat sur je suis malade, je reviens, c'est difficile, j'ai une perte de confiance, j'ai le regard des autres, les autres qui me regardent, bon, c'est compliqué. Mais concrètement, je suis atteint de la maladie de Crohn, par exemple, qui est une maladie chronique.
Oui.
J'ai perdu du jugement, du regard de l'autre. Comment fait-on pour finalement adapter le métier auprès d'une personne qui est compétente, mais qui est atteinte par une maladie qui peut arriver à tout le monde. Comment on fait concrètement ? Comment ça se passe dans l'entreprise ?
Alors, il y a un accompagnement très fort qui est avec des acteurs majeurs comme le médecin, bien sûr le médecin traitant, le médecin du travail, et les équipes RH, les équipes talent, qui vont voir si effectivement la personne qui est atteinte de cette maladie doit changer d'emploi, parce qu'on peut accompagner des personnes qui, par exemple, sont régulièrement sur la route et ne peuvent plus suivre leur rythme
bien
professionnel.
Sûr.
Donc, il y a des aménagements de poste. Donc ça fait vraiment partie du rôle, en fait, médecin-travail et RH, d'aménager les postes. Donc, il y a le côté aménagement de poste pour dire, voilà, cette personne est atteinte de la maladie de Crohn, donc a des moments de pic inflammatoire pendant lesquels elle sera absente, et des moments où il y a une telle fatigue que la personne sera obligée d'aménager son poste. Donc ça, c'est ce que va accompagner, et c'est vraiment l'accompagnement de la RH. Et puis après, il y a l'accompagnement de la personne, parce que pour elle, c'est aussi de se dire, est-ce que le nouveau poste que l'on me propose est un poste qui m'intéresse ? Est-ce que je dois faire le deuil du poste précédent ? Comment je vais retrouver de l'envie, de l'énergie ? Donc là, c'est vraiment un accompagnement autour de cette transition de poste, quand effectivement on a un aménagement particulier.
Et c'est là où j'imagine que les 10 coachs, Energy Boost, accompagnent. Donc, c'est des coachs professionnels qui sont diplômés, hyper impliqués.
Oui, oui.
Et donc, ils interviennent sur l'entreprise et son salarié, que sur le salarié. Enfin, comment ça se passe ?
Alors, effectivement, les 10 coachs sont tous des coachs professionnels, c'est-à-dire qui ont une formation type Master 2, Paris 8, Paris 2, donc une formation et un accompagnement régulier. Donc, des coachs professionnels expérimentés avec beaucoup d'accompagnement qui sont très investis parce que, alors, ce sont que des femmes aujourd'hui, c'est pas une volonté, mais c'est la réalité.
Est-ce que c'est la sensibilité féminine qui ferait la différence, peut-être ?
Non, je pense que de toute façon, y compris dans les formations de coach, il y a majoritairement des femmes, et en RH, il y a majoritairement des femmes. Donc, mais il n'y a pas une volonté de n'avoir que des coachs.
Non, mais c'est pas grave.
Non, c'est pas grave. Donc, en fait, nous sommes toutes donc, expérimentées, diplômées. Certaines sont comme moi en activité professionnelle. professionnels ouais. et interviennent à titre solidaire. Mmh. D'autres sont en activité, sont à leur compte, interviennent aussi à titre solidaire, mais peuvent également intervenir auprès des DRH pour accompagner des collaborateurs qui sont confrontés à un retour d'absence longue durée pour cancer ou autre mmh. maladie. Donc, elles peuvent intervenir aussi avec les entreprises.
Ok, alors, moi, j'ai bien compris. Effectivement, le contexte dans lequel on peut se trouver, le type d'accompagnement que l'on peut avoir, comment je peux être accompagné par des coachs ou en tout cas orienté peut-être par l'entreprise vers ces mêmes coachs mmh. et donc l'association Energy Boost. Mais c'est jamais évident finalement de se faire identifier, de se faire connaître et surtout peut-être auprès, j'irais peut-être des hôpitaux, auprès du corps médical.
Oui.
Comment est-ce que tu as un exemple concret à nous partager?
Alors on travaille en partenariat avec des centres de traitement de cancer. Donc par exemple actuellement on a un partenariat en cours avec le centre Oscar-Lambret ouais. À Lille.
Pas des moindres.
Un très beau centre de traitement de cancer où on a un partenariat autour du retour à l'emploi avec à la fois l'assistante sociale qui peut animer des ateliers collectifs ou des entretiens individuels et les coachs qui vont intervenir quand on a un profil qui nécessite plutôt un coaching particulier.
Mmh. Quelle forme ça peut prendre? Est-ce que vous vous déplacez? Est-ce que c'est de la visio? Est-ce qu'on utilise les outils finalement post-Covid? Comment ça se passe?
Alors majoritairement ou presque exclusivement on est en visio.
D'accord.
Parce qu'effectivement à la fois quand on est les personnes qui sont malades leur dire vous allez faire alors notamment en Île-de-France une heure de transport pour rencontrer votre coach.
Ouais.
C'est pas forcément oui. La meilleure solution à proposer. On n'a pas envie non plus de les faire retourner sur leur lieu de traitement parce que c'est vraiment un moment qui est complètement privilégié, confidentiel bien sûr, avec énormément de bienveillance. Mmh. Mais le fait d'être en visio depuis le confinement a apporté ce confort pour des personnes pour lesquelles le fait de faire trop de temps de trajet ne serait pas agréable.
Je vais te poser une question qui me semble un peu maladroite. sur finalement comment mesurer la satisfaction, tu vois, je pense que je sais pas si on peut exprimer ce genre de questions à travers la satisfaction parce qu'on est confronté quand même à une problématique de vie personnelle, mais derrière quels sont les résultats quelque part quoi.
Alors on n'a pas un KPI de...
Je ne voulais pas l'emprunter, ce terme-là.
On n'a pas un KPI du coaching. En revanche, dans notre accompagnement, notamment des coachings individuels, on a un cadre qui est très carré, qui est de dire on commence par un premier entretien pour identifier le besoin et l'objectif, qui serait l'objectif de la personne que nous allons accompagner. Ensuite, on a un nombre de séances qui est déterminé dans la convention de coaching et on fait un bilan en fin de coaching. Et dans ce bilan, on pose des questions à nos coachés, on leur demande ce qu'ils ont appris de leur coaching, est-ce qu'ils ont atteint leurs objectifs, quels sont ceux qui ont été atteints ou pas atteints. Et on leur demande également ce qui s'est bien passé, ce qu'il faudra améliorer dans le coaching et une note de satisfaction.
Très bien.
Donc ça, c'est... Alors, ça fait partie de notre process de coach de dire on a besoin d'avoir ce feedback.
Eh oui, bien sûr.
On leur envoie le feedback à la fin, vraiment, après le coaching, mais on ne le remplit pas ensemble, bien sûr. Et c'est important pour nous d'avoir ce retour.
J'imagine. Pour finir, Catherine, si tu avais deux, trois conseils pour anticiper le retour à l'emploi, alors, pendant le traitement, avant la reprise, ces deux, trois conseils, quels seraient-ils?
Alors, à partir du moment où le sujet de l'emploi est un sujet qui devient important pour le patient, c'est important de commencer à réfléchir au retour à l'emploi. Mmh. Alors, on n'accompagne pas une personne qui reviendra 6 mois plus tard. Mais on a l'accompagnement donc, de la personne qui sait qu'elle retournera d'ici un mois, 2 mois et qui commence à être plutôt stressée. Donc, c'est comment lui redonner confiance en elle et faire que cette période soit une période beaucoup plus agréable
facile,
et plus facile que la peur qu'elle peut avoir sur cette période. Pour les personnes qui sont retournées dans leur emploi et qui se posent des questions, est-ce que je change, est-ce que je ne change pas, on attend qu'elles aient pu reprendre leur rythme.
Oui.
Effectivement, dans ces cas, on a majoritairement des personnes qui, de façon beaucoup plus sereine, restent dans leur emploi, mais certaines vont pouvoir mettre en œuvre le projet dont elles avaient envie. Mais là, pour le coup, on passe vraiment par le côté très rationnel et très concret.
Ouais.
Est-ce que c'est réalisable, le côté financier ou autre? Et ensuite, on a des personnes, malheureusement, certaines personnes qui vont perdre leur emploi parce qu'elles ont annoncé qu'elles avaient un cancer et qu'elles étaient, par exemple, en période d'essai. J'ai accompagné une jeune femme qui a perdu son emploi parce qu'elle avait annoncé son cancer en période d'essai. Donc là, on a un accompagnement qui va vraiment être concomitant à leur première recherche.
Mmh.
Et c'est une forme un peu d'outplacement que l'on a vis-à-vis de ces personnes.
C'est la double punition quand même, là.
Oui. Donc, pour répondre à ta question, tout dépend effectivement du sujet qui est important pour le patient. Ensuite, en termes de conseils, moi, les conseils que je donnerais, c'est effectivement plutôt que les RH soient très sensibilisés au fait que le retour n'est pas si évident, n'est pas simple, et que le fait d'accompagner permet d'avoir un retour qui est plus facile, qui est plus fluide et qui évite aussi, pour certaines, d'être de nouveau en arrêt maladie.
Mais oui, parce qu'il faut souvent reprendre le train en marche qui, lui, s'est pas arrêté pendant que toi, tu étais en arrêt. Pour effectivement une cause bien, bien, bien louable. Catherine, comment fait-on pour retrouver finalement les informations d'Energy Boost ? Comment ça se passe ?
Alors, nous avons un site internet qui est le site energyboost.fr et sur le site, on a également une page contact, donc contact@energy-boost.fr, mais ça, tout est sur le site pour avoir ses retours.
Je suis un particulier, je suis une entreprise, je suis un centre hospitalier, je peux m'adresser à toi, en tout cas, pour avoir un accompagnement. Merci beaucoup Catherine, merci d'avoir participé en tout cas au podcast des Ailes des Hauts-de-France. Et puis longue vie à Energy Boost et puis surtout bravo pour la cause et l'engagement que tu as auprès de ces gens qui sont malheureusement passés par un moment difficile de la vie. Merci à toi.
Merci beaucoup Laurent.